Chapitre 94. Jésus à la belle eau, les trois disciples du Baptiste. C'est une très sereine journée d'hiver. Le soleil et le vent dans un ciel serein, uni, sans la moindre trace de nuage. Le jour vient de se lever. Il y a encore une légère couche de givre, ou plutôt de rosée presque gelée, qui fait l'effet d'une poussière de diamant sur le sol et sur l'herbe. Vers la maison arrivent trois hommes qui marchent d'un pas décidé, sachant où ils doivent se rendre. Enfin, ils aperçoivent Jean qui traverse la cour, chargé de brodeaux qu'il a tirés du puits, et ils l'appellent. Jean se retourne, pose les brocs et dit « Vous, ici, soyez les bienvenus. Le maître vous verra avec joie. Venez, venez, avant qu'arrive la foule. Maintenant, beaucoup de monde vient ici. » Ce sont les trois bergers, disciples de Jean-Baptiste, Siméon, Jean et Matthias. Ils suivent l'apôtre avec plaisir. « Maître, voici trois amis. Regarde, dit Jean, en entrant dans la cuisine, où flambe gaiement un grand feu de brindilles qui répand une agréable odeur de bois et de laurier brûlé. Oh, paix à vous, mes amis. Comment ça se fait que vous venez me voir ? Un malheur pour le Baptiste ? » Siméon dit « Non, maître, nous sommes venus avec sa permission. Il te salue et te dit de recommander à Dieu le lion poursuivi par les archers. Il ne se fait pas d'illusions sur son sort, mais pour l'heure il est libre et il est heureux, car il sait que tu as beaucoup de fidèles, même ceux qui tout d'abord étaient les siens. Maître, nous aussi nous brûlons de l'être. Mais nous ne voulons pas l'abandonner maintenant qu'il est poursuivi. Comprends-nous. » Bien sûr, je vous bénis pour ce que vous faites. Le Baptiste mérite tout respect et tout amour. Matthias. Oui, tu dis bien, il est grand le Baptiste, et toujours plus grand. Il rappelle l'agave qui, près de mourir, sort un grand candélabre avec sa fleur à 7 pétales qui flamboie et répand de son parfum. Lui, c'est pareil. Et il dit toujours, « Je voudrais seulement le voir une fois encore, te voir. Nous avons recueilli ce cri de son âme, et sans lui en avoir parlé, nous te l'apportons. Lui, c'est le pénitent, l'abstinent, et il fait encore le sacrifice du désir saint de te voir et de t'entendre. Je suis Tobie maintenant, Matthias. Mais je pense que l'archange donné au jeune Tobie ne devait pas être différent de lui. Tout en lui est sagesse. Il n'est pas dit que je ne le vois pas. Mais est-ce pour cela seulement que vous êtes venu? La marche est pénible en cette saison. Aujourd'hui il fait beau, mais ces 3 jours passés, quelle pluie sur les routes! Pas pour cela seulement. Il y a 2 jours, Doras le pharisien est venu pour se purifier. Mais le Baptiste lui a refusé le baptême en disant « L'eau ne pénètre pas avec une pareille croûte de péché. Un seul peut te pardonner, le Messie. » Et lui alors a dit « J'irai le trouver, je veux guérir, et je pense que ce mal vient de son maléfice. » Alors le Baptiste l'a chassé comme il aurait chassé Satan. Et lui, en s'en allant, a rencontré Jean qu'il connaissait depuis le temps où il allait voir Jonas qui lui était un peu parent et lui a dit « J'y vais, tout le monde y va, même Manaan y a été, et jusqu'au, je dis les courtisanes, mais lui a dit un nom plus dégoûtant, y vont. La belle eau est pleine de gens dans l'illusion. Maintenant, s'il me guérit et m'enlève l'anathème des terres, creusé comme par des machines de guerre, par des armées de taupes, de vers et de courtilières qui vident les graines et rongent les racines des arbres à fruits et des vignes, car il n'y a pas moyen d'en venir à bout, je deviendrai pour lui un ami. Mais autrement, malheur à lui. » Nous lui avons répondu, « Et c'est avec ces sentiments que tu y vas ?» Et lui a répondu, « Et qui a foi en se sataniser ? Du reste, comme il reçoit les courtisanes, il peut faire aussi alliance avec moi. Nous avons voulu venir te le dire pour que tu puisses savoir à quoi t'en tenir sur Doras. » Tout est déjà fait. Déjà fait? Ah, c'est vrai. Lui a des chars et des chevaux. Nous n'avons que nos jambes. Quand est-il venu?
Hier.
Et qu'est-il arrivé?
Voilà. Si vous avez l'intention de vous occuper de Doras, vous pouvez aller à sa maison de Jérusalem et participer au deuil. On est en train de le préparer pour le tombeau.
Mort?
Mort, ici. Mais ne parlons pas de lui.
Oui, maître, dis-nous seulement une chose. Est-ce vrai ce qu'il a dit de Manahan?
Oui.
Cela vous déplaît-il?
Oh, mais c'est notre joie. Nous lui avons tant parlé de toi, à lui, à Machéronte.
Et que veut un apôtre, sinon que son maître soit aimé?
C'est ce que voulaient Jean, et nous avec lui.
Tu parles bien, Mathias. La sagesse est avec toi.
Et moi, je ne le crois pas. Mais maintenant, nous l'avons rencontrée. Elle était même chez nous pour te chercher avant les tabernacles, et nous lui avons dit « Celui que tu cherches n'est pas ici, mais il sera bientôt à Jérusalem pour les tabernacles. » Nous lui avons parlé ainsi, car le Baptiste nous a dit « Voyez cette pécheresse, c'est une croûte d'ordure, mais à l'intérieur, elle a une flamme qui va grandissant. Elle deviendra si forte qu'elle rompra la croûte et tout brûlera. L'ordure tombera et il ne restera que la flamme. » C'est ainsi qu'il a parlé.
Mais est-il vrai qu'elle dort ici, comme sont venus le dire deux scribes puissants?
Non, elle est dans une des étables du régisseur, à plus d'un stade d'ici.
Langues infernales, as-tu entendu?
Et eux? Laisse-les dire. Les bons ne croient pas à leurs paroles, mais à mes œuvres.
C'est ce que dit aussi Jean. Il y a quelques jours, des disciples lui ont dit en notre présence « Maître, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et auquel tu as rendu témoignage, baptise maintenant, et tous vont vers lui. Tu vas rester sans fidèle ?»
Et Jean répondu « Bienheureuse mon oreille qui entend cette nouvelle, vous ne savez pas quelle joie vous me donnez. Sachez que l'homme ne peut prendre rien qui ne lui soit donné par le ciel. »
Vous pouvez témoigner que j'ai dit « Je ne suis pas le Christ, mais celui qui a été envoyé devant lui pour lui préparer le chemin. L'homme juste ne s'approprie pas un nom qui n'est pas le sien, et même si quelqu'un veut le louer en lui disant « C'est toi celui-là », c'est-à-dire le saint, il dit « Non ». En vérité, non, je suis son serviteur, et il en ressent également une grande joie, car il dit « Voilà, c'est que je lui ressemble un peu si quelqu'un peut me prendre pour lui. » Et que veut-il, celui qui aime, sinon ressembler à celui qu'il aime? Seule l'épouse jouit de l'époux. Celui qui s'est entremis pour le mariage ne pourrait en jouir, car ce serait immoralité et larcin. Mais l'ami de l'époux, qui se tient dans son voisinage et entend sa voix, que remplit la joie nuptiale, éprouve une joie si vive qu'elle est un peu semblable à celle qui rend heureuse la vierge que l'ami a épousée et qu'il goûte le miel des paroles nuptiales. C'est ma joie et elle est complète. Que fait encore l'ami de l'époux après avoir servi celui-ci des mois durant et après avoir escorté l'épouse jusqu'à la maison? Il se retire et disparaît. Il en est ainsi de moi. Un seul reste, l'époux avec l'épouse, l'homme avec l'humanité. Ô profonde parole, il faut que lui croisse et que moi je diminue. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Les patriarches et les prophètes disparaissent à son arrivée, car lui est pareil au soleil qui éclaire tout et d'une lumière si vive que les astres et les planètes, dont la lumière est éteinte, s'en revêtent, et ceux qui ne sont que ténèbres, par eux-mêmes disparaissent dans sa suprême splendeur. C'est ainsi qu'il en est, car lui vient du ciel, tandis que les patriarches et les prophètes doivent aller au ciel, mais n'en viennent pas. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous
et il annonce ce qu'il a vu et entendu. Mais personne ne peut accepter son témoignage s'il ne tend pas au ciel, et par conséquent, il renie Dieu. Qui accepte le témoignage de celui qui est descendu du ciel, scelle par sa croyance sa foi en Dieu vérité. Et non pas fable sans vérité, il sent la vérité parce qu'il a une âme qui la recherche. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu lui a donné l'esprit avec plénitude, et l'esprit dit « Me voici, prends-moi, je veux être avec toi, toi, délice de notre amour, car le Père aime le Fils sans mesure, et lui a tout remis en main. Celui donc qui croit au Fils possède la vie éternelle. » Mais qui refuse de croire au Fils ne verra pas la vie, et la colère de Dieu restera en lui et sur lui. » Matthias dit : C'est ainsi qu'il a parlé. Ces paroles sont gravées dans mon esprit pour que je te les dise. Et moi, je t'en loue et t'en remercie. Jésus poursuit : Le dernier des prophètes d'Israël n'est pas celui qui descend du ciel, mais ayant reçu le bénéfice des dons divins dès le sein de sa mère, vous ne le savez pas, mais moi je vous le dis, c'est celui qui est le plus proche du ciel. Quoi? Quoi? Oh, raconte! Le Baptiste dit de lui-même, « Je suis le pécheur. » Les trois bergers sont anxieux de savoir, et les disciples aussi ont le même désir. Quand la mère me portait, enceinte de moi, Dieu, parce qu'elle est l'humble et l'amoureuse, elle alla rendre service à la mère de Jean, qui était sa cousine par sa mère et avait conçu pendant sa vieillesse. Déjà le Baptiste avait son âme, car il était au 7e mois de sa formation, et le germe d'homme, renfermé en son sein maternel, tressaillit de joie en entendant la voix de l'épouse de Dieu. Il fut précurseur aussi par le fait qu'il devança les rachetés, car d'un sein à l'autre se répandit la grâce. Et elle y pénétra, et la faute d'origine disparut de l'âme de l'enfant. Je dis donc que sur la terre, il y en a trois qui possèdent la sagesse, comme au ciel, il y en a trois qui sont la sagesse, le Verbe, la Mère, le précurseur sur la terre, le Père, le Fils, l'Esprit-Saint au ciel. Notre âme est remplie d'étonnement, presque comme lorsqu'il nous fut dit « Le Messie est né, car tu es l'abîme de la miséricorde, et notre Jean est l'abîme de l'humilité. Et ma mère est l'abîme de la pureté, de la grâce, de la charité, de l'obéissance, de l'humilité, de toute autre vertu dont la source est en Dieu, et que Dieu verse en ses saints. » Jacques de Zébédée dit : Maître, il y a beaucoup de gens d'arrivée. Allons, venez vous aussi. Les gens sont très nombreux. La paix soit avec vous, dit Jésus, souriant comme il l'est peu souvent. Les gens bavardent et le montrent du doigt. Il y a beaucoup de curieux. « Ne tente pas le Seigneur ton Dieu, » est-il dit. « Trop souvent, on oublie ce commandement. On tente Dieu quand on veut lui imposer à lui notre propre volonté. On tente Dieu quand imprudemment on agit contre les préceptes de la loi qui est sainte et parfaite, et en ce qu'elle a de spirituel, le principal, et qu'on s'occupe et se préoccupe de la chair que Dieu a créée. On tente Dieu quand, après avoir reçu son pardon, on revient au péché. On tente Dieu quand, après avoir reçu ses dons, on en fait naître un dommage en usant égoïstement et sans penser à leur auteur. On ne plaisante pas avec les dons de Dieu, et on ne se moque pas de lui. Trop souvent, cela arrive. Hier, vous avez vu le châtiment qui atteint ceux qui se moquent de Dieu. le Dieu éternel, plein de pitié pour qui se repent, n'est au contraire que sévérité pour celui qui ne se repent pas et n'accepte pas de changer. Vous venez à moi pour entendre la parole de Dieu. Vous venez à moi pour avoir le miracle. Vous venez à moi pour avoir le pardon. Et le Père vous donne la parole, le miracle et le pardon. Et moi, je ne regrette pas le ciel parce que je peux vous donner le miracle et le pardon et que je puis vous faire connaître Dieu. L'homme est tombé hier, foudroyé, comme Nadab et Abiou, par le feu de la colère divine. Mais pour vous, abstenez-vous de le juger, seulement que ce qui est arrivé, nouveau miracle, vous fasse réfléchir sur la manière d'agir pour avoir Dieu pour ami. Lui voulait l'eau de la pénitence, mais sans esprit surnaturel. Il la voulait avec une mentalité humaine, comme une pratique magique qui le guérit de la maladie et le délivra du malheur. Son corps et sa récolte, il n'avait pas d'autre but. Rien pour sa pauvre âme. Elle n'avait pas de valeur pour lui. Ce qui comptait pour lui, c'était la vie et l'argent. Je dis, le cœur est là où est le trésor, et le trésor est là où est le cœur. C'est donc dans le cœur que se trouve le trésor. Lui, dans le cœur, n'avait soif que de vivre et de posséder beaucoup d'argent. Comment le procurer? Par un moyen quelconque, même par le crime. Et alors, demander le baptême, n'était-ce pas se moquer de Dieu et le tenter? Il aurait suffi d'un repentir sincère pour sa longue vie de péché, pour lui procurer une sainte mort, et même ce qu'il pouvait avoir avec justice sur la terre. Mais lui était l'impénitent. N'ayant jamais aimé personne en dehors de lui-même, il en arriva à ne pas s'aimer lui-même, car la haine tue jusqu'à l'amour animal et égoïste qu'on a pour soi. C'étaient les larmes d'un repentir sincère qui devaient être son eau lustrale. Et qu'il en soit ainsi pour vous tous qui m'écoutez, car personne n'est sans péché, et tous par conséquent, vous avez besoin de cette eau. Elle descend, pressée par le cœur, elle lave, rend la virginité à ce qui était profané, relève celui qui est tombé, rend la vigueur à celui que la faute avait saigné à blanc. Cet homme ne se préoccupait que des misères de la terre, mais il n'y a qu'une misère qui doit faire réfléchir l'homme, c'est l'éternelle misère de perdre Dieu. Cet homme n'oubliait pas de faire les offrandes rituelles, mais il ne savait pas offrir à Dieu un sacrifice spirituel, c'est-à-dire s'éloigner du péché, faire pénitence, demander par ses actes le pardon. Les offrandes hypocrites, faites avec des richesses provenant de biens mal acquis, c'est comme inviter Dieu à se faire complice des mauvaises actions de l'homme. Cela peut-il jamais arriver? N'est-ce pas se moquer de Dieu que d'avoir cette audace? Dieu repousse loin de lui celui qui dit « Voilà mon sacrifice », mais il brûle de continuer sa vie de péché. Est-ce que par hasard, le jeûne corporel sert à quelque chose lorsque l'âme ne s'impose pas le jeûne du péché? Que la mort de l'homme qui a eu lieu ici vous fasse réfléchir sur les conditions nécessaires pour être vraiment aimé par Dieu. Maintenant, dans son riche palais, les parents et les pleureurs mènent le deuil sur sa dépouille que l'on va bientôt conduire au tombeau. Ô vrai deuil et vraie dépouille, il n'est plus qu'une dépouille, rien d'autre qu'un deuil sans espérance, car l'âme, déjà morte, sera pour toujours séparée de ceux qu'il aima par parenté ou par affinité des idées. Si même un séjour identique les unit pour toujours, la haine qui y règne les séparera, et alors la mort est une vraie séparation. Il vaudrait mieux que, au lieu des autres, ce soit l'homme qui pleure sur lui-même quand il a tué son âme, et que par ses pleurs d'un homme contrit et humble, il rende à l'âme la vie avec le pardon de Dieu. Allez, sans haine ou commentaire, sans autre chose que l'humilité. Comme moi, qui sans haine, mais avec une juste appréciation, ai parlé de lui. La vie et la mort enseignent à bien vivre et à bien mourir pour conquérir la vie qui n'est pas sujette à la mort. La paix soit avec vous. Il n'y a pas de malade ni de miracle. Et Pierre dit aux trois disciples du Baptiste, « J'en suis fâché pour vous. » Oh, il ne faut pas l'être. Nous croyons sans voir. Nous avons eu le miracle de sa naissance pour nous rendre croyants. Et maintenant, nous avons sa parole pour confirmer notre foi. Nous ne demandons que d'y être fidèles jusqu'au ciel, comme Jonas, notre frère. Tout prend fin. Chapitre 95. Jésus à la belle eau. Ne convoite pas la femme d'autrui. Jésus passe au milieu d'un vrai petit peuple qui l'appelle de tous côtés. Quelqu'un montre ses blessures, un autre compte ses malheurs, un autre encore se borne à dire « Aie pitié de moi !» Et il y a qui lui présente son petit enfant pour qu'il le bénisse. La journée sereine et sans vent a amené beaucoup, beaucoup de monde. Quand Jésus a presque déjà gagné sa place, voilà qu'arrive du sentier qui conduit au fleuve un cri lamentable « « Fils de David, aie pitié de ton malheureux !» Jésus se tourne dans cette direction et aussi avec lui les disciples et la foule. Mais un buisson touffu de buis cache celui qui supplie. « Qui es-tu ? Avance !»«
Je ne puis, je suis infecté, je dois me rendre auprès du prêtre pour être rayé du monde des vivants. J'ai péché et la lèpre a fleuri sur mon corps. J'espère en toi !»
Un lépreux, anathème, lapidons-le!
La foule s'agite tumultueusement. Jésus fait un geste qui impose le silence et l'immobilité. Il n'est pas plus infecté que celui qui est dans le péché. Aux yeux de Dieu, le pécheur impénitent est encore plus souillé que le lépreux repenti. Qui est capable de croire, vienne avec moi. Avec les disciples, des curieux le suivent. D'autres allongent le cou, mais restent où ils sont. Jésus s'éloigne de la maison et du sentier dans la direction du buisson, mais ensuite il s'arrête et ordonne « Montre-toi !» Voilà que sort un jeune homme, un peu plus qu'adolescent, encore beau, au visage légèrement ombragé d'une moustache naissante et d'une barbe légère. Un visage encore frais et plein, aux yeux baignés de larmes. Un grand cri le salue qui part d'un groupe de femmes toutes voilées qui déjà pleuraient dans la cour de la maison au passage de Jésus, et elles s'étaient mises à pleurer plus fort devant les menaces de la foule. « Mon fils !» Et la femme s'effondre dans les bras d'une autre, parente ou amie, je ne sais. Jésus avance encore vers le malheureux. « Tu es bien jeune. D'où vient cette lèpre ?» Le jeune baisse les yeux, rougit, balbutie, mais n'ose pas davantage. Jésus répète la question. Il dit quelques mots plus nets, mais on ne saisit que ceci. « Le Père, je suis allé, et nous avons péché, pas moi seulement. Voilà ta mère qui espère et qui pleure. Au ciel, il y a Dieu qui sait. Ici, il y a moi qui sais aussi. Mais pour avoir pitié, j'ai besoin que tu t'humilies. Parle.
Parle, fils, aie pitié des entrailles qui t'ont porté.
Gémit la mère qui s'est traînée jusqu'auprès de Jésus et maintenant à genoux, tenant inconsciemment un pan du vêtement de Jésus d'une main, tendant l'autre vers son fils et découvrant un pauvre visage brûlé par les larmes. Jésus lui met la main sur la tête. Parle, lui redit-il.
Je suis l'aîné. Et j'aide mon père dans son commerce. Il m'a envoyé à Jéricho plusieurs fois pour parler avec ses clients, et l'un avait une belle jeune femme. Elle m'a plu. J'allais aussi plus qu'il n'était nécessaire. Je lui plus. Nous avons désiré, et nous avons péché pendant les absences du mari. Je ne sais comment cela est arrivé, car elle était saine.
Oui,
Non seulement j'étais saint et la voulais, mais elle était saine et me voulait. Je ne sais pas si en même temps que moi, elle a eu d'autres amants et s'est contaminée. Je sais que sur elle, la lèpre se développa aussitôt et déjà elle est au milieu des tombeaux, condamnée à mourir vivante. Et moi, maman, tu l'as vu, il y a peu de choses, mais on dit que c'est la lèpre et j'en mourrai. Quand ? Plus de vie, plus de maison, plus de maman. Oh, maman, je te vois et ne puis te donner un baiser. Aujourd'hui, ils viennent déchirer mes vêtements et me chasser de la maison, du pays. C'est pire que la mort. Et je n'aurai même pas les larmes de ma maman sur mon cadavre. Le jeune homme pleure. La mère semble une plante brisée par le vent, tant elle est secouée par les sanglots. Les gens discutent et se partagent en sentiments opposés. Jésus est triste, il parle. Et quand tu as péché, tu n'as pas pensé à ta mère? Tu as été fou au point de ne plus te souvenir que tu avais une mère sur la terre et qu'il y avait un Dieu au ciel? Et si la lèpre n'était pas apparue, tu ne te serais jamais souvenu que tu offensais Dieu et le prochain? Qu'as-tu fait de ton âme, de ta jeunesse? J'ai été tenté. Es-tu un enfant pour ignorer que ce fruit est maudit? Tu mériterais de mourir sans que j'aie pitié. Oh, pitié! Toi seul, tu peux. Pas moi, Dieu. Et si tu jures sur le champ de ne plus pécher, je le jure, sauve-moi, Seigneur. Je n'ai plus que quelques heures avant la condamnation. Maman, maman, aide-moi de tes pleurs. Oh, ma maman! La femme n'a même plus de voix. Elle s'attache seulement aux jambes de Jésus et lève son visage aux yeux dilatés par la douleur, le visage tragique de quelqu'un qui se noie et qui sait que c'est l'unique soutien qui le retient et peut le sauver. Jésus la regarde, lui sourit avec pitié. « Lève-toi, mère, ton fils est guéri, mais à cause de toi, pas à cause de lui. » La femme hésite encore. Il lui semble qu'ainsi, à distance, il ne puisse avoir été guéri, et au milieu de ses sanglots, elle fait des signes de dénégation. « Homme, ôte la tunique de ta poitrine. C'était là que tu avais la tache. Que ta mère soit consolée. » Le jeune descend son vêtement, apparaissant nu aux yeux de tous. Il n'a que la peau unie et lisse d'un jeune homme en bonne santé. « Regarde, mère, » dit Jésus, et il se penche pour relever la femme. C'est un mouvement qui sert aussi à la retenir quand son amour de mère et la vue du miracle la pousseraient contre son fils sans attendre qu'il soit purifié. Se rendant compte de l'impossibilité d'aller là où la pousse l'amour maternel, elle s'abandonne sur la poitrine de Jésus et lui donne un baiser. Dans un vrai délire de joie, elle pleure, rit, baise, bénit, et Jésus la caresse avec pitié. Puis il dit au jeune homme, « Va trouver le prêtre, et rappelle-toi que Dieu t'a guéri à cause de ta mère et pour que tu sois juste à l'avenir. Va !» Le jeune homme s'en va, après avoir béni le Sauveur, et à distance le suivent la mère et celle qui l'accompagnait. La foule pousse des cris d'Hosanna. Jésus retourne à sa place. Lui aussi avait oublié qu'il y a un Dieu qui ordonne l'honnêteté dans la conduite. Il avait oublié qu'il est défendu de se faire des dieux qui ne sont pas dieux. Il avait oublié de sanctifier le sabbat comme je l'ai enseigné. Il avait oublié le respect affectueux pour sa mère. Il avait oublié qu'on ne doit pas commettre l'impureté, qu'on ne doit pas voler, être faux, que l'on ne doit pas désirer la femme d'autrui, qu'on ne doit pas se tuer ni tuer son âme, qu'on ne doit pas commettre l'adultère. Il avait tout oublié. Voyez comme il avait été frappé. Ne pas désirer la femme d'autrui, cela ne fait qu'un avec ne pas commettre l'adultère, car le désir précède toujours l'action. L'homme est trop faible
pour pouvoir désirer sans satisfaire son désir. Et ce qui est suprêmement triste, l'homme ne sait pas faire de même dans ses justes désirs. Dans le mal, le désir et puis l'accomplissement. Dans le bien, le désir, puis on s'arrête quand on ne revient pas en arrière. Comme je le lui ai dit, je le dis à vous tous, car le péché de désir est répandu comme le chien-dent qui se propage tout seul. Êtes-vous des enfants pour ne pas savoir que cette tentation est un poison et qu'il faut la fuir? J'ai été tenté. C'est l'antique parole. Mais puisque c'est aussi un exemple ancien, l'homme devrait se souvenir de ses conséquences et savoir dire non. Notre histoire ne manque pas d'exemple d'une chasteté qui a su se garder malgré les séductions du sexe et les menaces des violents. La tentation est-elle un mal? Elle ne l'est pas. C'est l'œuvre du malin. Mais elle se change en gloire pour celui qui en triomphe. Le mari qui va à d'autres amours est un assassin de son épouse, de ses enfants, de lui-même. Celui qui entre dans la demeure d'autrui pour commettre l'adultère est un voleur et des plus vils. Pareil au coucou, il profite sans bourse du nid d'autrui. Celui qui surprend la confiance de l'ami est un faussaire, car il témoigne une amitié qu'en réalité il ne possède pas. Celui qui agit ainsi se déshonore lui-même et déshonore ses parents. Peut-il alors avoir Dieu avec lui? J'ai accompli le miracle à cause de cette pauvre mère, mais la luxure me dégoûte à tel point que j'en suis révoltée. Vous avez crié par peur et par dégoût de la lèpre. Pour moi, mon âme a crié par dégoût de la luxure. Toutes les misères m'entourent, et pour toutes, je suis le sauveur. Mais je préfère toucher un mort, un juste déjà décomposé dans sa chair qui fut honnête et qui est déjà en paix avec son esprit, que d'approcher d'un luxurieux. Je suis le sauveur, mais je suis l'innocent. Que s'en souviennent tous ceux qui viennent ici ou qui parlent de moi en me prêtant les ferments de leur passion? Je comprends que vous voudriez autre chose de moi, mais j'en suis incapable. La ruine d'une jeunesse à peine formée et détruite par la passion m'a troublée davantage que si j'avais touché la mort. Allons vers les malades, ne pouvant à cause de la nausée qui m'étrangle être la parole. Je serai le salut de ceux qui espèrent en moi. La paix soit avec vous. En fait, Jésus est très pâle, comme s'il était souffrant. Il ne retrouve son sourire que quand il se penche sur des enfants malades et sur des infirmes allongés sur leurs brancards. Alors, il redevient lui-même. En particulier quand, mettant son doigt dans la bouche d'un petit muet d'environ 10 ans, il lui fait dire « Jésus ». Et puis « Maman ». Les gens s'en vont tout doucement. Jésus reste à se promener au soleil qui inonde l'air jusqu'au moment où le rejoint l'Iscariote. « Maître, je ne suis pas tranquille. »«
Pourquoi, Judas ?»«
À cause de ces gens de Jérusalem, je les connais. Laisse-moi y aller pour quelques jours. Je ne te dis pas non plus de m'envoyer seul. Au contraire, je te prie qu'il en soit autrement. Envoie-moi avec Simon et Jean, ceux qui furent pour moi si bons à mon premier voyage en Judée. L'un me retient, l'autre me purifie aussi dans mes pensées. Tu ne peux croire ce qu'est Jean pour moi. C'est une rosée qui calme mes ardeurs et une huile sur mes os agités. Crois-le. »
Je le sais. Tu ne dois pas t'en étonner par conséquent si je l'aime tant. C'est ma paix. Mais toi aussi, si tu es toujours bon, tu seras mon réconfort. Si tu emploies les dons de Dieu et si tu en as beaucoup pour le bien, comme tu fais depuis quelques jours, tu deviendras un véritable apôtre.
Et tu m'aimeras comme Jean?
Je t'aime de même, Judas, mais seulement je t'aimerai sans souci et sans douleur.
Ô mon maître, comme tu es bon!
Va donc à Jérusalem. Cela ne servira à rien, mais je ne veux pas décevoir ton désir de m'être utile. Maintenant, je vais le dire tout de suite à Simon et à Jean. Allons, tu vois comme ton Jésus souffre pour certaines fautes. Je suis comme quelqu'un qui a soulevé un poids trop lourd. Ne me donne jamais cette douleur, jamais plus.
Non, maître, non, je t'aime, tu le sais, mais je suis faible.
L'amour donne la force. Ils entrent dans la maison et tout prend fin.
Et c'est bien, car je suis très mal pour le moral. Vous en savez la cause. Au physique, soit parce que nous sommes au temps de la passion, soit que j'ai trop écrit. Je ne sais pas exactement pourquoi. Je passe par une période terrible de fièvre, de douleur à la poitrine, à l'épine dorsale, à l'abdomen. Je crois que Compito continue à me travailler. Je paie toute l'humidité et l'absence de soleil de ce cher pays.